à votre santé. Bonjour les auditeurs et auditrices de RVM 93.7. Nous avons notre émission habituelle de l'association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Aujourd'hui, nous sommes deux, n'est-ce pas ?
Eh oui, Christian Max est présent.
Et moi-même, Hélène Mazur. Et nous avons deux sujets importants à vous faire partager. Le premier concerne encore le ou la Covid, comme on veut, mais pas du tout au niveau de voilà où on en est, du nombre de malades, etc., mais d'un entretien approfondi avec un épidémiologiste. Et d'autre part, nous avons quand même des échos d'enquêtes menées sur nos grands laboratoires. Alors, Christian, c'est toi qui vas attaquer parce que j'ai cru comprendre que tu avais lu un entretien avec l'épidémiologiste Antoine Flahaut.
Oui, notre jeune voix de service qu'on a souvent vu et entendu sur les médias et que je suivais et que je suis toujours avec beaucoup d'intérêt parce que je n'ai jamais entendu dire de bêtises, bien au contraire.
Bien. Alors,
ça n'a pas toujours été le cas de tous les intervenants.
D'accord, donc voilà. C'est utile à préciser.
Voilà.
Alors, la question qu'on se pose, parce qu'il y a par-ci, par-là, on entend des échos de personnes qui ont à nouveau été contaminées par le Covid, est-ce qu'on peut dire qu'on repart, que c'est une maladie hivernale, dès que les températures fraîchissent, une maladie hivernale commune, ou pas ?
Eh bien, pas du tout. Pour le professeur Flahaut, donc c'est une maladie des quatre saisons maintenant.
Ah, pas de chance.
Pas de chance. Et c'est pour ça d'ailleurs que les nouvelles vagues se succèdent à un rythme de plus en plus accéléré, même si elles sont de moins en moins graves.
D'accord, de moins en moins graves. Ouais. Donc ça veut dire qu'au niveau mortalité...
Pour l'instant.
Pour l'instant. Oui, soyons prudents. Parce que finalement... Si on compare la mortalité due à la Covid et la mortalité de la grippe, par exemple...
La grippe, c'est déjà pas mal, mais là, le Covid, c'est quatre fois plus.
Ah oui, oui, c'est beaucoup quand même, hein, quatre fois
oui,
plus.
Oui, c'est toujours beaucoup trop. Mais... Oui,
beaucoup trop. Et puis déjà, la grippe, quand même.
Oui.
Hein,
la grippe, déjà, c'est violent, mais alors là, c'est quatre fois plus.
C'est déjà 10 000 hein,
oui,
en
oui.
France. C'est quand même beaucoup. Hein,
10-15 oui. 000 oui, par an, la
oui.
grippe.
Est-ce qu'on peut parler encore d'une vague ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces vagues, puisqu'elles sont saisonnières, j'ai quatre saisons ?
Oui, c'est une huitième vague, modeste, mais une vague.
D'accord.
Voilà, d'après le professeur Flahaut. Puis d'après d'ailleurs tout ce qu'on peut voir et ce qu'on peut lire simplement en regardant les chiffres sur Covid Tracker ou sur Santé publique France. Donc, que faire ?
Bah oui, que faire face à des vagues qui se succèdent comme ça.
Oui. Alors, ce n'est pas compliqué d'ailleurs à calculer. Omicron est 8 fois moins létal,
oui.
8 fois moins mortel, oui. mais 8 fois plus transmissible que la souche originelle.
Voilà. D'accord.
La seule réponse, ça serait de diminuer l'amplitude des vagues. C'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs. Mais d'après le professeur Flahaut, ça ne peut plus passer par des mesures liberticides. Ça ne serait pas accepté par la population. Et ça serait donc inefficace.
Ben oui, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de vaccinations. Ouais. Tout le monde en attendait quand même un résultat.
Il y en a un quand même.
Hein. Ben oui.
Il y en a un. Et il est positif. Alors, ce que lui pense qu'il faudrait faire, c'est quand même de rétablir le port du masque dans les transports et les lieux clos, parce que la transmission se fait surtout par voie aérosol.
Ça, on le savait. D'ailleurs, on est déjà un certain nombre, moi, je vois, dans certains supermarchés et pharmacies. C'est obligatoire dans les salles d'attente, je crois, les médecins.
Ah oui, oui, dans les pharmacies, même si les gens ne les portent pas toujours,
oui,
ça l'est.
Oui.
Et chez le médecin aussi, mais là, les gens sont un peu plus disciplinés quand même.
Oui, absolument. Oui, oui. Donc, ça tombe sous le sens. Hein. On sait bien que, voilà, hein, en se parlant... respirant, voilà.
Oui.
Bon, donc ça, c'est pas compliqué. Il n'y a rien d'autre à faire.
Ah si, ah si, oh là là, si. Bah, déjà, garder les bonnes habitudes et faire comme les Asiatiques, dès qu'il y a un problème, mettre le masque. Mmh. Mais il faudrait aussi également améliorer la ventilation des bâtiments. Et alors là ça coince. Et en particulier dans les établissements scolaires.
Ah oui,
ça... Et comme c'est toujours là que démarrent les nouvelles vagues...
C'est problématique, hein, j'avais entendu des représentants d'associations de parents, de personnel qui tempêtaient parce qu'il n'y avait aucun moyen donné pour... Alors on parlait d'aérateurs, de purificateurs, enfin il y avait différentes solutions.
Alors certaines collectivités ont pris le taureau par les cornes, mais bon, elles n'ont pas tous les moyens, ni toute la volonté politique d'ailleurs.
Bien sûr. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. Et alors, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution du virus? Parce qu'on passe d'un variant à un autre. Qu'est-ce que...
Ben, la situation, comme toujours avec ce genre de virus, elle évolue très vite. Par exemple, un variant qui s'appelle BA.2.75, qui est dominant en Inde, ben, chez nous,
on ne l'a pas vu.
Hein. Par contre, ce qu'on assiste, c'est nouveau par rapport à ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, c'est que ce n'est pas un sous-variant qui émerge, mais un groupe de variants.
D'accord.
Alors, ce qui complique d'ailleurs la préparation d'un vaccin.
Oui.
Alors, on l'appelle Pentagone en plus, c'est pas sympa, quoi.
Oui.
Pourquoi Pentagone? Parce que ce groupe de sous-variants qu'on a actuellement, il présente 5 mutations clés de la protéine spike du virus. Celle qui fait qu'elle se fixe sur nos cellules et nous rend malades.
Ah,
voilà.
Oui, d'accord. Donc, elle est agressive.
Voilà. Mm. C'est cette protéine spike qu'il faut... qu'il faut truander, quoi.
Oui. Bon.
Alors, on est passé d'une épidémie où un variant chassait l'autre à une coexistence de plusieurs sous-variants.
Ben oui, voilà. C'est ça.
Donc la situation actuelle... Schéma assez proche de la grippe, malheureusement. Quoi.
Mmh. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus atteint, quoi? Qu'est-ce qui en souffre le plus?
Les gens qui sont les plus touchés, ceux qui meurent le plus du Covid en France, sont les personnes soit très âgées, soit les personnes immunodéprimées. Alors, quand on est les deux à la fois,
ça
pose un gros problème. Hein. Pour ces derniers, donc, souvent... C'est donc ces deux catégories, souvent insuffisamment vaccinées, et certains, de toute façon, ne peuvent pas être vaccinés.
Oui.
Il y a contre-indication médicale.
Oui.
Alors, si les vaccins ont fait s'effondrer le taux de fatalité du virus, et il ne remonte pas, donc finalement, la vaccination de masse a été utile. Mais aujourd'hui, il faudrait plutôt s'attaquer à des populations beaucoup plus ciblées.
Oui.
Mmh. C'est-à-dire essentiellement les personnes âgées.
Très âgées, déjà. Même, dit-on.
Oui, oui. Mm. Là, la limite, c'est entre 60 et 65 ans. À partir de là, il faut vraiment se faire des rappels régulièrement. Quoi.
Bien, écoutez, chères auditrices, auditeurs, vous avez entendu. Voilà, si vous voulez vous protéger efficacement et que vous entrez dans cette catégorie de personnes.
Je précise donc qu'au centre de santé, ils vont recevoir ou ils ont déjà reçu les nouveaux vaccins.
D'accord.
Et donc le centre de santé organisera comme auparavant le samedi des séances de vaccination.
Très bien. Bien sûr, ça entre dans ses prérogatives, la prévention. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, moi, j'ai lu d'autres choses, Christian, sur nos grands laboratoires. Alors, déjà, un dont on a beaucoup entendu parler, Pfizer, tu te souviens?
Ah oui, très bien, oui, c'est lui qui m'a piqué 2 fois.
D'accord. Donc, on pense que c'est un des premiers, en tous les cas, qui a...
Oui, avec Moderna, oui.
Voilà, qui a trouvé un vaccin, et le problème...
Et AstraZeneca, dont on ne parle plus, mais c'est pour des raisons essentiellement commerciales.
D'accord. Et donc là, le problème, c'est avec la Commission européenne. Parce que il y a donc une commission des parlementaires, elle a saisi, cette commission, le parquet européen. Alors, il faut savoir que le parquet européen... qui a été institué en 2021, ça fait pas longtemps, Hein. C'est un organe indépendant de l'Union européenne et qui est chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'Union et contre toute infraction portant atteinte à ses intérêts financiers de l'Union européenne.
Je crois qu'ils vont avoir beaucoup de travail.
Eh bien, voilà. Le problème, c'est que tout le monde se souvient que la Commission européenne, celle qui décide tout, hein, en fait, hein, elle avait procédé à l'achat groupé de vaccins pour le compte des 27 États membres de l'Union européenne. Hein, on a tous vu ça aux infos. Eh bien, le Parquet européen a annoncé le 14 octobre dernier avoir ouvert une enquête sur l'achat des vaccins dans l'Union européenne. Sur l'acquisition des vaccins anti-Covid. Voilà. Et il n'y a pas d'autres informations, sauf que c'est en raison d'un intérêt extrêmement élevé du public, évidemment, puisque l'opinion publique, elle a protesté contre l'opacité. Vous vous souvenez, on ne savait rien sur le coût de ces vaccins, des négociations, rien, rien, rien.
Oui, le problème, ça n'est pas le fait d'avoir procédé à un achat pour le compte de tous les pays européens, mais c'est la façon dont le contrat a été négocié qui pose beaucoup de questions.
Voilà. Donc, il y a un groupe de députés d'une commission spéciale appelée COVI, tout le monde comprend, qui ont critiqué d'une façon virulente la façon dont la Commission européenne avait signé des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. En particulier avec le géant américano-allemand Pfizer BioNTech. Et donc, les vaccins de 5 fabricants ont été homologués. Hein, vous vous souvenez, hein, il y avait Moderna, AstraZeneca, Janssen, d'autres moins connus, Novavax et Valneva. Mais plus de la majorité des doses, hein, sur tous ces fabricants, ont été achetées ou réservées à Pfizer. Et il y a eu un échange de textos, c'est maintenant que c'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas, entre le PDG de Pfizer, Albert Bourla, et la présidente de la Commission européenne, vous vous souvenez, Ursula von der Leyen, c'est elle qui a négocié. Et cet échange, eh bien, il n'a pas été publié. Et ce secret, il fait scandale, puisqu'il a précédé la signature du contrat. Donc, c'est comme je vous disais, c'est l'opacité. Donc là, voilà, il y a une enquête qui est menée et on vous donnera, j'espère, que nous aurons les informations et qu'en tous les cas, elles seront publiques. Mais il y a d'autres scandales qui concernent les vaccins. Et donc là, c'est un échange qui a eu lieu entre la commission spéciale du Parlement sur le Covid-19, donc la même, hein, qui a interrogé donc Jeanine Smal, qui est la présidente des marchés internationaux de Pfizer, donc encore Pfizer. Et donc, voici ce qu'a demandé un député néerlandais. « J'aimerais une réponse claire. Est-ce que l'efficacité du vaccin de Pfizer contre la Covid pour réduire la transmission, hein, vous vous souvenez, a été testée avant sa mise en marché ?» Réponse. Alors, je vous passe les emberlificotements de la réponse. Et donc, la réponse, c'est non. Vous savez, nous devions aller à la vitesse de la science pour comprendre ce qui se passait, etc. Mais on se souvient aussi que le principal slogan des campagnes de vaccination contre la Covid-19 était que le vaccin, en plus de la protection des personnes vulnérables, ça, ce qui a été avéré, empêchait la transmission. Et c'est sur cette base qu'avait été instauré le pass sanitaire, et c'est au nom de cette non-transmission du virus qu'en France et ailleurs dans le monde, quelques 15 000 soignants, médecins, infirmières, kinés, réfractaires à cette vaccination, eh bien, ont été tout simplement suspendus et privés de leur salaire. Ah, c'est quand même un problème en période de pénurie de soignants. Je ne sais pas s'ils vont essayer de rattraper cela, puisque là, manifestement, il n'y avait pas d'informations et qu'on a bien vu que le virus continuait à se transmettre. Donc, on est d'accord sur ce qui a été dit précédemment. La vaccination a permis de protéger davantage les vaccinés, mais voilà, la transmission a continué. Ça, c'est un premier scandale. Et j'en ai un autre encore plus énorme, donc il s'agit du livre, enfin de ce que révèle un livre dont le titre est « Combien coûtent nos vies ?» donc a été écrit par Pauline Londex et Jérôme Martin. Ces deux personnes ont fondé en 2019 l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et ils ont rencontré une sénatrice qui travaille là-dessus aussi. Et quelques mots, tu as envie de savoir pourquoi ces personnes se sont mises à écrire un livre.
Eh bien, peut-être qu'il n'y avait pas tant de luminosité que ça sur les pratiques des laboratoires pharmaceutiques.
Eh bien oui, pour dire la transparence, hein, Observatoire de la transparence. Donc, ils étaient en colère, ces deux personnes, sur le fait que des gouvernements, dont le nôtre, s'opposent à la transparence sur la fixation du prix du médicament. Ils s'opposent à la transparence. Donc, vous voyez, on rejoint le problème à l'Union, de l'Union européenne. Hein, avec, et donc, et aussi, alors que dans certains pays dans le monde, eh bien, grâce à la société civile, il y a des choses qui ont été gagnées. Non seulement sur la transparence, mais aussi sur le prix du médicament. Parce que du coup, il faut parler du prix des médicaments. Sais-tu comment ils sont fixés ?
Au doigt mouillé.
Ce sont les industriels qui proposent à la commission qui doit traiter ça. Ils proposent un prix et c'est sur cette base que c'est négocié. Mais évidemment, on ne sait rien de comment aussi c'est négocié. Et donc, il faut juste savoir qu'on est passé de certains prix du médicament et la suite, on vous en parlera une autre fois, chers auditrices, auditeurs, au moins le dernier qui bat tous les records, le Zolgensma. Bon, personne ne le connaît parce qu'il traite une maladie génétique rare. Eh bien, écoutez bien, alors qu'il a été... il a reçu, pour le trouver, il a été développé à tous les niveaux par de l'argent public et par le laboratoire de l'INSERM. Écoutez bien, il est commercialisé par Novartis au prix de 2 millions d'euros par patient. 2 millions d'euros par patient. Parce que vous comprenez, il soigne, il guérit. Et est-ce que c'est le but des labos ?
Ah ben non. Non, non, le but des labos, c'est de verser le maximum de dividendes aux actionnaires. Et le PDG des labos, il y tient beaucoup, parce que sinon, il est viré au prochain conseil d'administration. Donc, c'est ça, la logique du système.
Alors, voilà, on va devoir s'arrêter là, mais...
Je peux dire aussi que, oui. Pour ceux qui veulent faire des placements boursiers, acheter des actions des laboratoires pharmaceutiques, c'est extrêmement intéressant.
D'accord. Bon, il ne faut pas donner des conseils comme ça, voyons, Christian. Nous poursuivrons sur cette enquête une prochaine fois. Et nous vous disons, chers auditrices, auditeurs, vous pouvez toujours nous retrouver sur les ondes de RVM le samedi 10h30, le mardi à 13h, jeudi 16h. Et surtout en podcast. Au revoir.
Au revoir.